Iran, voix de la République islamique d'Iran.
Au nom de Dieu clément et miséricordieux. Chers auditeurs, vous allez entendre le verset 64 de la sainte sourate Al-Amran. Notre frère Janati vous en donne la lecture chantée, vous en aurez ensuite la traduction. Ce verset porte sur l'appel fait aux gens du livre et aux croyants pour adhérer à un principe commun, l'adoration de Dieu l'unique.
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أهل الكتاب تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم تعالوا إلى كلمة سواء بيننا وبينكم ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ألا نعبد إلا الله ولا نشرك به شيئا ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله ولا يتخذ بعضنا بعضا أربابا من دون الله فإن تولوا فقولوا اشهدوا بأن صدق الله العلي العظيم.
Dis, ô gens du livre, venez-en à un dire qui soit commun entre nous et vous, que nous n'adorions que Dieu sans rien lui associer, et que parmi nous, nul n'en prenne d'autre pour Seigneur en dehors de Dieu. Puis, s'il tourne le dos, eh bien dites, soyez témoins que oui, c'est nous qui sommes les soumis.
Thank you.
Chers auditeurs, bienvenue sur les ondes de la radio francophone iranienne. Vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Madame, Monsieur, bonjour, ravi de vous retrouver en ce vendredi 1er juillet 2022. Nous allons vous présenter tout de suite le journal suivi d'un commentaire politique. L'Iran attaché à la diplomatie multilatérale dont le résultat devrait assurer la levée des sanctions. Vous aurez ensuite la seconde partie de l'émission. Merci d'être avec nous. Au sommaire de ce journal nucléaire, les accusations occidentales s'inscrivent dans le cadre des objectifs politiques. Déclaration du président iranien Ebrahim Raisi. Téhéran se dit prêt à rechercher une solution diplomatique pour mettre fin à la crise ukrainienne. Et puis, l'iranophobie est loin d'être une sagesse et sert les intérêts du régime sioniste, a prévenu Téhéran. C'était les principaux titres que nous allons tout de suite développer dans ce journal. Bienvenue à tous. Le président iranien a déclaré que les accusations occidentales contre le programme nucléaire pacifique de son pays visaient à atteindre des objectifs politiques par le biais des négociations. Ibrahim Raisi a fait ses remarques lors d'un appel téléphonique avec l'émir du Qatar, le cheikh Tamim bin Hamad al-Thani. Le président Raisi a rappelé que l'agence nucléaire de l'ONU avait confirmé dans ses multiples rapports que le programme nucléaire iranien était transparent et n'a jamais dévié de sa voie légale. Le président a également qualifié les sanctions unilatérales contre l'Iran en rapport avec son programme nucléaire d'illégal et d'injuste. Ibrahim Raisi a souligné que la conclusion d'un accord durable sur le PGAC dépend de la suppression des sanctions et de la fin inconditionnelle des allégations sans fondement. Il a réitéré que l'Iran était déterminé à défendre son droit et souhaitait la suppression de toutes les sanctions. Le chef de la diplomatie iranienne a réitéré l'opposition de Téhéran à la guerre en Ukraine, affirmant que la République islamique est prête à contribuer à une solution diplomatique à la crise. Hossein Amir Abdollahian a fait ses remarques lors d'un appel téléphonique avec son homologue ukrainien, Dmytro Kuleba. Le très haut diplomate iranien a déclaré prêt Téhéran à faire partie d'un accord pour faciliter le transit maritime sans entrave des marchandises vers les marchés mondiaux depuis un corridor en mer Noire. De son côté, le ministre ukrainien des Affaires étrangères a salué la position de Téhéran concernant la guerre qui touche son pays. Il a déclaré que Kiev accueille favorablement tout soutien politique qui aiderait à mettre fin à la crise en cours en Ukraine. L'ambassadeur d'Iran aux Nations Unies a une fois de plus blâmé Washington pour l'impasse actuelle dans les négociations sur la relance de l'accord de 2015. Dans une déclaration à la réunion du Conseil de sécurité de l'ONU, Majid Tartravanchi a également critiqué les signataires européens du PGAC pour avoir manqué à leurs obligations et promesses. Il a déclaré que l'Iran s'était vu refuser les droits promis dans l'accord en raison de l'échec des Européens. Enfin, Téhéran a qualifié de biaisée et de non constructive la déclaration conjointe anti-iranienne des autorités bahreïniennes et égyptiennes. Le porte-parole du ministère iranien des Affaires étrangères, Nasser Kanani, a déclaré que certains motifs et objectifs politisés étaient à l'origine des allégations contre l'Iran. Le diplomate a exhorté les deux États arabes à mieux comprendre les équations régionales et le rôle stabilisateur de l'Iran en Asie occidentale. Il a mis en garde contre le fait de prendre une mauvaise et imprudente voie d'alimenter l'iranophobie. L'Iran insiste sur la nécessité pour les responsables régionaux de négocier pour résoudre les problèmes de la région. Pour Téhéran, la normalisation des relations avec le régime sioniste ou la présence d'étrangers dans la région ne résoudra aucun problème dans la région, mais l'aggravera. Fin de ce journal. Merci de votre attention. Dans quelques instants, notre commentaire politique. Restez avec nous. Merci. L'Iran, attaché à la diplomatie multilatérale, dont le résultat devrait assurer la levée des sanctions. L'Iran est attaché à la diplomatie multilatérale, dont le résultat devrait assurer la levée effective et vérifiable de toutes les sanctions illégales, a déclaré jeudi l'ambassadeur d'Iran à l'ONU. S'adressant à une réunion du Conseil de sécurité de l'ONU sur la non-prolifération, mise en œuvre de la résolution 2231 du Conseil de sécurité qui s'est tenue à New York, jeudi, Majid Tartravanchi, le diplomate iranien, a déclaré près de 7 ans après la conclusion du JCPOA, l'accord nucléaire de 2015, et l'adoption de la résolution 2231 qui l'endosse, les membres du Conseil ont une fois de plus réaffirmé aujourd'hui leur soutien au rétablissement et à la mise en œuvre complète du JCPOA. Nous pensons que le JCPOA est une réalisation diplomatique, multilatérale, durement acquise qui reste la meilleure option sans alternative. Malheureusement, certains membres du Conseil qui ont ignoré leurs propres obligations en ce qui concerne le JCPOA et la résolution 2231 continuent d'ignorer les causes sous-jacentes de la situation actuelle et présentent un récit fallacieux sur la raison pour laquelle nous sommes ici, attribuant certains mensonges et fabrications à mon pays, a déploré le représentant iranien. Les engagements pris dans le cadre de l'accord, qui ont été soigneusement formulés et expliqués dans le JCPOA et la résolution 2231, sont explicites et sans ambiguïté. Alors que les engagements nucléaires de l'Iran étaient liés à la levée effective de toutes les sanctions et à la normalisation des relations commerciales et économiques de l'Iran, le fait que les sanctions sont toujours en place et que l'Iran ne profite pas des avantages économiques promis dans l'accord. Conformément au JCPOA, les autres parties se sont engagées à assurer l'accès de l'Iran dans les domaines du commerce, de la technologie, de la finance et de l'énergie. Plus précisément, les États-Unis, en plus de leurs obligations de lever les sanctions contre l'Iran, se sont explicitement engagés à faire de leur mieux de bonne foi pour soutenir ce JCPOA et empêcher toute ingérence dans la réalisation du plein bénéfice par l'Iran de la levée des sanctions. Malgré ces engagements explicites, l'Iran est privé de ses droits et avantages depuis 4 ans. Au mépris de la résolution 2231 et en violation flagrante du droit international et de la Charte des Nations Unies, les États-Unis se sont retirés de l'accord le 8 mai 2018 et ont réimposé des sanctions unilatérales qui avaient été levées auparavant, exerçant une pression sans précédent aux autres pays de ne pas respecter leurs obligations en vertu de la résolution 2231 ou d'être punis. C'est sans précédent dans l'histoire du Conseil de sécurité. Malgré les énormes difficultés que nous avons rencontrées à la suite des sanctions, l'Iran a décidé de continuer à honorer ses engagements, validés par l'AIOA à 15 reprises, après s'être fait promettre et assurer par les participants européens du GCPOA qu'ils compenseraient les pertes subies par l'Iran après le retrait unilatéral des États-Unis de Trump du GCPOA. Malheureusement, les trois pays européens ont pour leur part ignoré leurs obligations et leurs promesses, nous laissant à l'Iran d'autre choix que d'utiliser ses droits en vertu des paragraphes 26 et 36 du GCPOA pour suspendre partiellement et graduellement ses engagements le 8 mai 2019, a évoqué le représentant iranien à l'ONU. Dans ce contexte, l'Iran a pris certaines mesures correctives conformément au GCPOA pour rétablir un certain équilibre dans les engagements et les avantages réciproques au titre de l'accord. Cependant, ces certains États évoquent en grande pompe les mesures correctives de l'Iran comme si c'était l'Iran qui se retirait du GCPOA et réimposait ou introduisait d'innombrables sanctions inhumaines dans le but, publiquement déclaré, d'affamer une nation entière. Alors que l'ancienne administration américaine a imprudemment sacrifié un principe bien établi du droit international et s'est retirée de l'accord et a réimposé des sanctions, l'administration actuelle suit les traces de son prédécesseur en continuant d'adopter la fameuse politique de pression maximale et d'imposer des sanctions à l'Iran. Il ne fait aucun doute qu'une telle politique est avancée comme un levier dans les négociations. L'Iran est attaché à la diplomatie multilatérale dont le résultat devrait assurer la levée effective et vérifiable de toutes les sanctions illégales. L'Iran a exigé des États-Unis des garanties vérifiables et objectives, que le GCPOA ne sera plus torpillé, que les États-Unis ne violeront plus leurs obligations et que les sanctions ne seront pas réimposées sous d'autres prétextes ou désignations, comme cela s'est produit sous l'administration américaine précédente. Et que le mécanisme du GCPOA ne seront pas abusés. En fait, ce sont les exigences minimales pour déterminer la viabilité à long terme de l'accord. Au cours des pourparlers de Vienne, nous avons fait preuve d'un maximum de flexibilité et de bonne foi afin de parvenir à un accord acceptable pour tous et avons même introduit des solutions novatrices aux problèmes restants dans l'espoir de sortir de l'impasse. Cependant, l'approche irréaliste et rigide des États-Unis a conduit à l'impasse actuelle, a encore déploré le diplomate. L'ambassadeur iranien à l'ONU a poursuivi en expliquant que nous poursuivrons nos mesures correctives car le non-respect des engagements des autres parties se poursuit. Les sanctions restent pleinement en vigueur, la politique de pression maximale est toujours là, en cours, et les souffrances de notre peuple se poursuivent, a encore déploré le représentant iranien. Néanmoins, dès que les autres parties rempliront toutes leurs obligations de manière complète liées au pacte multilatéral, d'une façon efficace et vérifiable, l'Iran renversera immédiatement toutes ces mesures. Cependant, les souffrances de notre peuple du fait que d'autres parties n'ont pas tenu leurs engagements liés au pacte sont presque totalement irréversibles. Nos patients, en particulier ceux atteints de maladies rares, ont subi des sanctions inhumaines qui incluent même des médicaments et du matériel médical. Comment inverser la mort et les souffrances de ces patients innocents? Cette injustice ne peut être effacée de la mémoire du peuple iranien. En ce qui concerne notre coopération avec l'AIOA ainsi que nos activités nucléaires pacifiques, je voudrais souligner que toutes nos activités nucléaires pacifiques sont entièrement conformes à nos droits et obligations au titre du TMP ainsi qu'à l'accord de garantie de l'agence, a-t-il insisté. En tant que membre responsable du TNP, la République islamique d'Iran est attachée au principe de collaboration avec l'agence et a rempli toutes ses obligations au titre du TNP et de l'accord de garantie généralisée, car l'agence poursuit ses activités en Iran sans entrave, a ponctué le représentant iranien à l'ONU.
parole d'experts.
En marge du 6e sommet des chefs d'État des pays riverains de la mer Caspienne, tenu ce mercredi 29 juin à Ashgabat, capitale turkmène, le président iranien Ibrahim Raisi s'est entretenu avec son homologue russe Vladimir Poutine. À cette occasion, les deux parties ont appelé au renforcement des relations bilatérales. Quelle analyse portez-vous sur l'état des relations entre Téhéran et Moscou ? Mikhail Gamandiegov, analyste chroniqueur à l'agence Observatoire Continental, nous répond.
Oui, je pense tout d'abord qu'en ce qui concerne ce sommet de la mer Caspienne, des pays riverains de la mer Caspienne, ce qu'on a pu observer, et cela est très important, c'est qu'il y a une convergence de facto total sur toutes les principales questions liées au développement de cette région, de cette zone stratégique, sur le plan eurasiatique et plus généralement international. Parmi ces points, on peut citer effectivement l'opposition de tous les pays membres, de tous les participants, qu'aucun acteur extra-régional ne devrait être impliqué et être présent dans cette zone. Je pense que c'est un aspect très très important. D'autre part, on a vu également les différents sujets qui ont été abordés sur le développement des potentialités de cette zone qui offre d'énormes potentialités. Et parmi justement les dispositions qui ont été abordées et largement discutées, on peut bien sûr citer le projet du corridor nord-sud qui est un grand projet de route commerciale, un grand projet logistique donc international qui devrait rallier de Saint-Pétersbourg, donc la deuxième ville de Russie, avec plusieurs villes de l'Iran et de l'Inde, ce qui pourrait effectivement faire de cette zone une très importante orientation logistique internationale, et certains experts parlent même du fait de la concurrence qui pourrait se faire au canal de Suez, qui, comme on le sait, est une des principales références logistiques internationales. Ça aussi, c'est un aspect qui a été largement abordé et soutenu. Et c'est sûr que lorsque ce projet de corridor nord-sud sera implémenté totalement, évidemment, tous les pays riverains de la mer Caspienne pourront largement en bénéficier, et même d'autres pays, puisque justement, comme cela a été indiqué, ce projet devra rallier Saint-Pétersbourg avec plusieurs villes de l'Iran, mais aussi l'Inde, qui ne fait pas partie de la mer Caspienne. Mais dans tous les cas, vous pouvez imaginer qu'est-ce que cela va représenter en termes d'opportunités pour le commerce eurasiatique et plus généralement international, lorsque ce corridor sera mis en place et totalement en service. Donc je pense que ce sont les principaux aspects qui ont été abordés. Et encore une fois, pour revenir au premier aspect, bien sûr, il est très important de rappeler l'opposition des pays riverains de la mer Caspienne, que toute force extra-régionale ne devrait pas pouvoir participer au projet donc, dans le cadre de cette zone stratégique de la mer Caspienne. Je pense que c'est aussi un point très important et qui confirme que les nations eurasiennes ne souhaitent pas l'interférence d'acteurs extérieurs. On sait très bien à qui ils font référence. Je pense que les relations entre la Russie et l'Iran, au-delà d'être très bonnes, excellentes, stratégiques, ce sont des relations avant tout naturelles, parce que les deux pays, les deux nations appartiennent à l'espace eurasiatique, jouent un rôle très important dans différents domaines sur le plan régional, eurasien et international de manière générale. Cela se traduit aussi bien dans le cadre sécuritaire. On l'a vu parfaitement, cette collaboration de haut niveau dans la lutte antiterroriste, ne serait-ce qu'en République arabe syrienne. On le voit également à travers cette interaction importante dans le cadre des processus que l'on observe justement en Eurasie. On peut parler justement de ce tout récent sommet qu'on aborde aujourd'hui des pays riverains de la mer Caspienne, mais il ne faut pas oublier aussi que les deux pays font partie de l'Organisation de coopération de Shanghai. L'Iran, depuis la confirmation de son adhésion en qualité de membre de plein droit à l'OSS, fait partie également de cette organisation très importante internationale et eurasienne, où, comme on le sait, font dont font partie la Russie, la Chine, plusieurs pays d'Asie centrale ex-soviétique, sans oublier le Pakistan et l'Inde, et maintenant l'Iran. Donc ça aussi, c'est un aspect très important de la chose. On sait également que l'Iran est très intéressé pour d'accroître les relations avec l'Union économique eurasiatique, composée de la Russie et de plusieurs autres États ex-soviétiques. On a également entendu tout récemment que l'Iran, avec l'Argentine, a demandé à adhérer à l'organisation des BRICS, composée du Brésil, de la Russie, de l'Inde, de la Chine et de l'Afrique du Sud. Donc, on voit bien que les deux pays sont sur la même longueur d'onde. Et bien sûr, les différents types de collaboration, j'ai parlé de l'aspect sécuritaire, mais il ne faut pas, bien sûr, oublier toutes les autres orientations, y compris donc, la sphère énergétique. Ça aussi, c'est très important. Et plus concrètement, quand on parle justement, encore une fois, de ce sommet de la mer Caspienne, bien sûr, la Russie et l'Iran, avec, ne serait-ce qu'à travers ce projet de corridor nord-sud, ont un rôle très important à y jouer. Parce que lorsque ce projet sera réalisé et implémenté, cela ouvrira d'énormes opportunités supplémentaires aussi bien aux deux pays, à l'Iran comme à la Russie, mais aussi aux autres États concernés. Parce qu'encore une fois, il faut bien le rappeler, ce corridor quand même de plusieurs milliers de kilomètres permettra de rallier la Russie, plus exactement donc Saint-Pétersbourg, donc qui est la deuxième plus grande ville russe, et un port commercial majeur, avec plusieurs villes iraniennes, et aussi plusieurs villes indiennes, comme cela est prévu par le projet. On sait aussi que, tout récemment, il y a eu plusieurs dispositions qui ont été mises en place par les représentants des deux pays à travers l'annonce d'ouverture de représentations commerciales sur le territoire iranien et sur le territoire russe, plus exactement dans la capitale iranienne Téhéran et à Saint-Pétersbourg, justement pour permettre aux opérateurs économiques des deux pays d'échanger encore plus et d'accroître leurs échanges et leurs collaborations. Je pense que ça aussi, c'est quand même une fenêtre supplémentaire qui s'ouvre. Encore une fois, je ne pense pas que pour la Russie et l'Iran, il soit important de regarder, de voir cette collaboration stratégique entre les deux pays uniquement je ne crois pas qu'il faut le voir sous le prisme des pressions occidentales qui existent et qui continuent de s'accroître sur les deux pays. On sait parfaitement de quoi il s'agit, mais encore une fois, pour moi, cette coopération stratégique russo-iranienne, elle est avant tout naturelle, elle appartient à notre espace d'appartenance naturelle qu'est l'Eurasie, et je ne crois pas qu'il faut forcément qu'on puisse faire un parallèle avec l'Occident, qui représente une extrême minorité planétaire, et aujourd'hui, cela ne cesse d'être rappelé par beaucoup de représentants. On l'a vu d'ailleurs tout récemment, le porte-parole du ministère chinois des Affaires étrangères, Li Jianzhao, l'a parfaitement rappelé à l'issue du sommet du G7, en rappelant que ce fameux G7, qui aujourd'hui est une plateforme totalement obsolète, ne représente que 770 millions de personnes, tandis que ne serait-ce que les BRICS à eux seuls représentent plus de 3 milliards d'habitants de la planète. Et mis à part les BRICS, on peut également parler de l'Organisation de coopération de Shanghai. Donc de facto, plus de la moitié de la population mondiale, avec sans oublier les autres pays qui seront amenés à adhérer à ces organisations. Donc pour moi, la coopération russo-iranienne, elle est parfaitement naturelle et bien sûr, elle se doit de se développer. On le voit à travers donc, les actions qui sont entreprises et je pense que l'avenir est très intéressant pour aussi bien le cadre bilatéral russo-iranien que multilatéral avec les autres pays, les autres parties impliquées de l'espace eurasiatique.
Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue dans une nouvelle édition du débat en ce samedi 25 juin 2022. Le chef de la diplomatie russe, Sergueï Lavrov, est arrivé mercredi soir à Téhéran pour effectuer une visite officielle et s'entretenir avec les hauts responsables iraniens, dont le président Ebrahim Raisi et son homologue, Hossein Amir Abdollahian, et discuter des questions bilatérales, régionales et internationales. Il s'agissait de la première visite du ministre russe des Affaires étrangères en Iran depuis l'entrée en fonction du président Ebrahim Raisi. Cette visite intervient au moment où le monde connaît de nombreuses crises économiques et énergétiques et bien sûr au menu des discussions. Alors le développement des relations, de la coopération économico-commerciale, mais aussi de la lutte contre le terrorisme. Bien sûr, les dossiers régionaux, entre autres la Syrie, étaient également au menu des discussions des deux parties. Selon de nombreux observateurs, cette visite ouvre un nouveau chapitre dans les relations Téhéran-Moscou. Aujourd'hui, dans le cadre de cette édition du débat, nous allons nous pencher sur l'importance de cette visite de M. Lavrov à Téhéran et bien entendu la perspective de la coopération entre les deux pays dans les domaines économiques et politiques, mais aussi dans le domaine de la lutte contre le terrorisme. Veuillez rester avec nous jusqu'à la fin de cette émission.
Le chef de la diplomatie russe s'est rendu mercredi soir à Téhéran pour s'entretenir avec les autorités du pays, parmi lesquelles son homologue iranien. À la veille de son voyage, les médias occidentaux ont commencé leurs spéculations sur des motifs de ce déplacement. Le média des démocrates, la CNN, croit que les Russes se tournent vers un allié de confiance, qui est la République islamique d'Iran, pour savoir comment contourner un déluge des sanctions occidentales. Sans oublier le fait que de telles visites pourront donner un coup d'accélérateur aux accords de coopération, poursuivis notamment dans le gouvernement de Raïssi, entre les deux pays. Al-Arabiya Al-Jadid vient de rapporter que l'un des objectifs de la visite de Lavrov en Iran était de favoriser l'élargissement de la coopération Téhéran-Moscou dans le sens de la lutte contre les sanctions américaines. Le média arabe, basé à Londres, déclare que les responsables des deux pays avaient récemment eu de nombreuses rencontres publiques et à huis clos. En référence à des sources d'information iraniennes, Al-Arabiya Al-Jadid rapporte que Lavrov rencontrerait le président Ebrahim Raisi, Amir Abdollahian et d'autres responsables iraniens. Les sources, qui ont souhaité garder l'anonymat, ont souligné que lors de sa visite à Téhéran, Lavrov discuterait de la coopération réciproque dans les affaires régionales et internationales, y compris les évolutions concernant le dossier nucléaire iranien, de même que la situation prévalant en Syrie. La visite de Lavrov à Téhéran est en effet sa première visite en Iran depuis l'arrivée au pouvoir d'Ebrahim Raisi. La dernière visite de Lavrov remonte à plus d'un an, où il a rencontré le ministre des Affaires étrangères de l'époque. Certes, cette dernière visite se fait dans un moment où le monde connaît de nombreuses crises économiques et énergétiques, relevant des développements régionaux et internationaux, en particulier la guerre en Ukraine. L'incapacité et la faiblesse de Joe Biden a décidé d'aller au-delà de la politique ratée de la campagne de pression maximale contre l'Iran ont également abouti à une longue pause dans les négociations sur la levée des sanctions. Par conséquent, on peut dire que les sanctions occidentales contre l'Iran et la Russie ont ouvert un nouveau chapitre dans la coopération des deux pays.
Retour au plateau de l'émission du débat. Merci de votre fidélité. Permettez-moi de vous présenter tout de suite nos invités pour cette édition du débat. Nous sommes en ligne depuis Bruxelles avec Luc Michel, géopoliticien, et depuis Vaucluse avec Bernard Cornu, écrivain et géopolitologue. Monsieur Cornu, bonjour. Merci d'être en ligne avec nous.
Bonjour à vous et à Monsieur Luc Michel.
Monsieur Cornu, alors, comme vous le savez, le chef de la diplomatie russe s'est rendu pour la première fois depuis l'arrivée au pouvoir du président Ibrahim Raïssi à Téhéran mercredi soir. Il a eu des entretiens avec les hauts responsables iraniens, bien sûr des affaires régionales et internationales, entre autres la situation en Syrie, la crise en Ukraine, mais aussi la coopération économique bilatérale était au menu des discussions des deux parties. Alors, au moment où le monde est confronté, en effet, à de nombreuses crises où les deux pays notamment sont soumis à des sanctions occidentales, en l'occurrence américaines. Quel premier regard portez-vous sur l'importance de cette visite, la visite de M. Lavrov à Téhéran?
C'est une visite très importante et très positive, puisqu'il apparaît que la plupart des grands enjeux seront évoqués. La coopération régionale, l'Iran et la Russie partagent des côtes de la mer Caspienne, qui est un centre de production de pétrole et de gaz depuis longtemps, depuis plus d'un siècle, et aussi les enjeux régionaux sur la Syrie pour trouver une issue favorable à tous les combats, à tous les envahissements de parties de la Syrie par la Turquie, sous le prétexte de protéger sa frontière contre des infiltrations, contre la présence organisée mais trop longue et mal gérée d'anciens mercenaires combattants qui ont été regroupés dans cette région, dans la province d'Idlib, suite à des accords locaux chaque fois, arrangés par la Russie avec l'accord de la Syrie. Et aussi, comme deux pays lourdement frappés par des sanctions plus ou moins légitimes et souvent même illégales, ces pays doivent réagir pour trouver des solutions positives pour contourner ces sanctions et surtout pour montrer qu'elles sont vaines, qu'elles sont non seulement injustes, mais qu'elles affaiblissent en fait l'Europe parce qu'elles renchérissent les achats de gaz et de pétrole pour toute l'Europe. Et bientôt nous allons entrer dans l'automne et ensuite la saison, donc où il y aura beaucoup de consommation. Donc il est urgent de trouver des solutions positives pour montrer que ces sanctions non seulement sont inefficaces, mais elles sont nocives pour toutes les parties. Et donc il faut trouver des voies pour relancer la diplomatie plutôt que jouer avec les bâtons que sont les sanctions.
Merci infiniment pour ces précisions. Restez avec nous, s'il vous plaît. On va tout de suite rejoindre à Bruxelles Luc Michel, géopoliticien. Monsieur Michel, bonjour et merci infiniment d'avoir accepté notre invitation.
Bonjour à vous et à votre équipe et à Monsieur Cornu. L'alliance stratégique entre l'Iran et la Russie, elle est fondamentale parce qu'elle est multidimensionnelle. Ce sont deux partenaires qui se font confiance. Il y a le volet militaire qui fait que rapidement, l'OCE, l'Organisation de coopération de Shanghai, va se transformer en contre-OTAN, plus seulement l'OTCS en son sein, mais toute l'alliance. Deuxièmement, il y a le partenariat géo-économique qui est encore renforcé par la lutte contre les sanctions. Et on voit que, fort de l'expérience de l'Iran et du Venezuela, la Russie a tendance à fédérer les États sous sanctions, comme on l'a vu récemment avec la visite de Maduro en Iran. Et enfin, il y a évidemment dans le domaine de la guerre du gaz et des hydrocarbures, il y a une alliance fondamentale. Les Américains disent que Téhéran, c'est l'épée géopolitique de la Russie dans cette guerre. Et effectivement, si l'Iran avait accepté de remplacer la Russie comme fournisseur des Européens, il aurait diminué l'emprise de ceux-ci sur le marché gazier pétrolier européen. Mais l'Iran a refusé de le faire et a laissé ce marché aux mains de la Russie en échange d'alliances stratégiques fournies par Moscou. Voilà tout ce qu'il faut retenir de cela. Lorsque j'avais annoncé cette alliance en 2015, il y avait beaucoup de sceptiques. On m'avait opposé les divergences idéologiques qui existaient entre Téhéran et Moscou. Vous savez qu'actuellement, il y a deux visions de la géopolitique. Il y a la vision géopolitique occidentale, qui est celle notamment de l'administration Biden, qui fait prédominer l'idéologie, les positions idéologiques de la géopolitique. Par exemple, Biden divise le monde en démocratie libérale et en autocratie illibérale. Dans cette fausse analyse, des gens comme Orban ou comme Donald Trump, ils se retrouvent aux côtés de Xi Jinping, aux côtés de Vladimir Poutine ou aux côtés de l'Iran. C'est une fausse vision, évidemment. À Pékin, à Moscou et à Téhéran, on pratique une géopolitique classique. C'est-à-dire qu'on oppose de vieux empires continentaux, l'Iran, qui est l'héritière de la Perse qui existe depuis 25 siècles, la Russie, qui est la troisième Rome, l'héritière de Rome, qui existe depuis 27 siècles, et la Chine, qui existe aussi depuis 21 siècles, on l'oppose à des jeunes puissances talacrocratiques, jadis la Grande-Bretagne, aujourd'hui les États-Unis, sans grande histoire. Et quand vous regardez l'affrontement stratégique entre l'axe de l'Eurasie et le bloc américain occidental, voyez que le bloc américain occidental, il est structuré sur des puissances maritimes, le Japon, l'Australie, les États-Unis, la Grande-Bretagne, la France, etc. Tandis que l'Eurasie est structurée sur de vieilles puissances continentales et l'Afrique à laquelle l'Organisation de coopération de Shanghai tend la main, c'est également l'existence de vieux empires, qu'on se souvienne du Mali qui, aux alentours de l'an 1000, était l'État le plus avancé que les États musulmans et que les États européens. Et le Mali, justement, était à cette époque une puissance qui était détruite par le colonialisme. C'est cela qu'il faut retenir. Donc, Téhéran et Moscou, main dans la main, ils sont en train d'imposer une nouvelle vision de la géopolitique mondiale.
Merci pour ces éclairages. Restez avec nous, M. Michel. Monsieur Cornu, alors, Monsieur Michel l'a rappelé, il s'agit donc entre Téhéran et Moscou d'une coopération multidimensionnelle, d'un partenariat stratégique. Alors, dans cette logique de confrontation entre ces deux visions de géopolitique dont parlait tout à l'heure Monsieur Michel, comment cette visite de Monsieur Lavrov est perçue dans les milieux politiques et médiatiques occidentaux, dans le contexte des évolutions actuelles de la région, voire du monde, notamment sur fond de crise en Ukraine?
Les Européens ont voulu essayer de réduire leurs achats de gaz, de pétrole et de gaz aussi, de la Russie, puisque ce gaz alimente les caisses financières de la Russie, donc la guerre. Et les Européens veulent freiner, arrêter, certains même arrêter cette guerre, mais les restrictions font monter les prix. Donc on voit bien que ce n'est pas une solution. Et il faut rappeler ici que pour les réserves mondiales de gaz, la Russie est numéro 1 avec 21% des réserves. L'Iran est numéro 2 avec 17% des réserves et sans doute le gaz le moins cher à produire du monde et encore peu exploité à cause des sanctions américaines illégales qui sont faites à la demande en fait de l'État d'Israël qui veut tout le temps agiter des menaces pour appeler à l'aide les grandes puissances et puis déformer la réalité, faire oublier sa propre occupation des territoires palestiniens. Et le troisième pays de réserve est le petit Qatar, qui l'exploite depuis longtemps sous forme de gaz liquéfié, qui est exporté vers l'Europe et vers aussi de plus en plus vers l'Asie. Donc ces trois pays font plus de 50% des réserves mondiales. Et donc pour ce marché du gaz, il est essentiel que au moins la Russie et l'Iran s'entendent et qu'ils tentent de se rapprocher des positions du Qatar, qui est très sollicité actuellement pour vendre un peu plus de gaz liquéfié, mais les contrats sont déjà pris, sont à long terme, on doit augmenter la production très rapidement. Donc en fait, l'Iran, ici, avec toutes ses réserves encore peu exploitées, son gaz pas cher, est une opportunité intéressante que sans doute la Russie va vouloir contribuer de développer. Comme vous savez, les sanctions ont fait partir la société Total qui avait signé un grand contrat. La situation en Ukraine fait que l'autre société française, Engie et Total, se sont rapprochés du Qatar. Donc il y a des mouvements profonds. Et ce qui est important, c'est qu'en fait, au lieu que ça soit passif, c'est il faut que la Russie et l'Iran reprennent l'initiative dans ce marché mondial du gaz. Et je pense que ce sera un des sujets à discuter. Bien sûr, c'est du moyen terme, c'est du long terme, mais c'est essentiel comme signal pour démontrer aux Européens, aux Américains, que toutes ces sanctions sont inefficaces, ont des effets très négatifs, notamment aussi pour la politique climatique mondiale, puisque utiliser du gaz liquéfié, ça fait beaucoup plus d'effets d'émissions de CO2 et de coûts aussi que l'utilisation du gaz naturel transporté par gazoduc. Oui, M. Luc Michel a tout à fait raison de rappeler l'émergence de gaz de schiste et de pétrole de schiste aux États-Unis, qui ont des conséquences environnementales désastreuses sur place et dans le reste du monde. Moi, je voudrais rappeler que cette guerre des hydrocarbures, elle date même de plus, beaucoup plus longtemps. Par exemple, en Iran, la Russie tsariste et l'Angleterre se sont partagées en 1907 des zones d'influence en Iran. La Russie avait le pétrole de Bakou au bord de la Caspienne et était un peu moins intéressée. Par contre, les Anglais qui développaient leur flotte pour le contrôle des routes marchandes et contrôle de la défense de leur colonie indienne étaient très intéressés à avoir du pétrole non loin de l'océan Indien. Et ensuite, les Américains ont pu un peu prendre la place du Royaume-Uni dans la péninsule arabique en signant des accords avec les Saoudiens. Et du coup, il y a une certaine, depuis très longtemps, une domination de l'Angleterre et du Royaume-Uni et des États-Unis pour ce contrôle du marché des hydrocarbures. Et d'ailleurs, aussi à Londres, avant la guerre de 14, en 1912, à Londres a été créée la Turkish Petroleum Company, qui n'avait de Turc que le nom, avec quelques actionnaires turcs aussi, un peu plus ou moins discrets, mais l'intention très tôt de l'Angleterre était de contrôler tout le pétrole abondant du Moyen-Orient, qui était connu par de plusieurs études géologiques dans les années 1870, 80, 90, et aussi au début du siècle, au moment où les Allemands étudiaient le tracé du chemin de fer Berlin-Bagdad, en Mésopotamie et aussi en Turquie. Donc c'est une vieille histoire. Il faut bien rappeler que le marché des hydrocarbures, ce sont les plus gros marchés du monde de commodités, de produits, et c'est aussi les marchés qui rapportent le plus, qui ont le plus de fluctuations à cause des spéculations, à cause du contrôle des robinets. Ici le Venezuela, un jour l'Iran, un autre jour ou quelques décennies l'Irak. Donc c'est vraiment l'enjeu fondamental. Et il est donc important que s'opposent à cet impérialisme anglo-saxon des forces plus indépendantes de la Russie, de la Chine, de l'Iran et des pays arabes démocratiques ou qui peuvent le redevenir, et qu'ils s'allient aussi à l'Europe pour cela, pour qu'à la fin que l'Europe soit moins dépendante des États-Unis et des anglo-saxons pour son indépendance énergétique, pour sa solidité énergétique.
Bernard Cornu, écrivain et géopolitologue depuis Vaucluse. Luc Michel, géopoliticien depuis Bruxelles. Merci infiniment d'avoir été nos invités pour cette édition du débat. Merci beaucoup.
À bientôt. Plaisir, comme d'habitude.
Voilà, c'est la fin de cette édition du débat. Merci à vous tous de nous avoir suivis. Excellente journée à toutes et à tous. Au revoir et à très bientôt.
Comment l'axe anglo-saxon arnaque Paris en Afrique. Pendant que Paris continue d'accuser régulièrement Moscou et Pékin de frapper ses intérêts sur le continent africain, les anglo-saxons n'hésitent pas à commettre de nouveaux croche-pieds à leur allié hexagonal en Afrique. Une réalité qui met parfaitement en exergue la relation vicieuse qu'entretiennent Washington et Londres à l'encontre de la France et des autres prétendus alliés européens. Le système france-africain de l'Élysée est désormais non seulement confronté à la résistance panafricaniste et à l'alliance de celle-ci avec les principales puissances mondiales non occidentales, mais également à ses propres alliés anglo-saxons qui n'hésitent plus à frapper ouvertement les intérêts hexagonaux. L'erreur monumentale des élites hexagonales, aussi bien dans le cadre de leur politique en Afrique qu'à l'échelle globalement internationale, est de ne pas avoir su adapter leur politique en tenant compte des attentes des Africains, ni d'avoir été en mesure de se conformer aux nouvelles réalités mondiales multipolaires en maintenant une mentalité, un discours et des actions caractérisées par une extrême arrogance si habituelle, et d'avoir maintenu pour soi-même un rôle de sous-traitant vis-à-vis de l'establishment anglo-saxon en continuant à fermer les yeux sur tous les sales coups entrepris contre les intérêts français par les alliés washingtoniens et londoniens à divers endroits du monde. Et pendant que l'Élysée et le Quai d'Orsay, réfutant les aspirations populaires africaines de masse et en lançant des accusations incessantes contre Moscou, Pékin, Téhéran ou encore Ankara, dans l'objectif de justifier les échecs subis, Washington et Londres passent désormais presque ouvertement à l'action pour frapper le pauvre et si obéissant allié français. Ainsi, le principal allié de Paris en la qualité de l'anglo-saxon a été observé à tenter de surfer sur la vague souverainiste et panafricaniste, y compris s'il fallait à cet effet reprendre les discours critiques à l'encontre de la France-Afrique. Désormais, les anglo-saxons sont allés encore plus loin en faisant adhérer le Togo et le Gabon au Commonwealth, de facto l'équivalent néocolonial britannique de la France-Afrique. Alors qu'ils n'ont pas de lien historique avec le Royaume-Uni, le Togo et le Gabon ont rejoint samedi le Commonwealth, composé majoritairement d'anciennes colonies britanniques, rapporte France 24, l'une des principales voies de propagande hexagonale pour l'international. Cela est d'ailleurs rapporté par les propagandistes hexagonaux avec une amertume à peine voilée, mais qui traduit si bien la relation de dominant à dominé entre l'axe Washington-Londres et Paris. Quel sera notre pronostic pour la suite? À dire vrai, et très vraisemblablement, l'Élysée et le Quai d'Orsay feront en sorte d'avaler de nouveau ces énièmes amertumes et déceptions. Après tout, si cela sert les intérêts des chefs du bloc des nostalgiques de l'unipolarité, c'est tout de même pour la bonne cause. Maintenant, et en quittant la discussion sur la relation familiale sadomasochiste occidentale, comment entrevoir ces tout récents développements pour les Africains et leurs principaux alliés non occidentaux qui défendent l'ordre multipolaire international? Probablement, il faut le prendre de manière positive. Tout d'abord, le fait que les croche-pieds se multiplient dans l'axe occidental confirme que l'Occident collectif est loin d'être uni. D'autre part, le fait que l'axe anglo-saxon tente de reprendre la main en marchant sur les intérêts hexagonaux en Afrique confirme que l'establishment occidental comprend parfaitement les difficultés auxquelles il fait face sur le continent et plus généralement à l'échelle internationale, y compris dans le refus malgré d'énormes pressions des pays africains à suivre l'Occident dans la haine et l'hystérie russophobe. Enfin, et cela est particulièrement rassurant, si certains représentants africains pro-occidentaux changent de cap, passant de Paris à Washington, Londres, cela est fort loin de concerner la société civile africaine qui, pour une large partie d'entre elles, voit tout l'Occident collectif comme une menace, voire la principale menace pour l'émancipation totale et le développement de leurs pays respectifs et de l'Afrique dans son ensemble. Et de la même manière que la France-Afrique a subi de plein fouet la colère de millions d'Africains, le Commonwealth ou autre arnaque occidentale subira fort vraisemblablement le même sort. Personne ne sera désormais dupe de ne pas s'apercevoir que l'establishment occidental, aussi rusé soit-il, dans le cas anglo-saxon en particulier, est bel et bien la cible à éliminer.
Chers auditeurs, vous pouvez nous capter tous les soirs de 18h20 à 19h20, temps universel, sur ondes courtes, dans la bande des 49 mètres, sur la fréquence de 6135 kHz, en Europe et en Afrique du Nord. À Téhéran, nos auditeurs peuvent nous entendre à la même heure, sur FM, dans la fréquence de 99,5 MHz. Vous pouvez également nous capter sur les satellites Hotbird et Eutelsat 3.
Aquí te...